mensuel sur l'éducation positive. Aujourd'hui, c'est l'épisode numéro 2 et nous recevons avec plaisir Catherine Dumonteil-Crémer. Catherine, bonjour.
Bonjour.
Ça va ce matin ?
Très bien. Je suis tout à fait au point, je crois.
Parfait. Alors, on va démarrer tout de suite. Aujourd'hui, nous allons parler des schémas familiaux. Catherine, vous êtes entre autres auteure de plusieurs ouvrages sur l'éducation positive. Et ce thème des schémas familiaux, vous le connaissez bien. Est-ce que vous pourriez donner aux auditeurs une définition ?
Une définition des schémas familiaux ?
Oui.
C'est assez curieux. Je ne me suis jamais posé cette question-là, mais je pense que peut-être que ce que je pourrais dire, c'est l'influence des parents tout au long de notre vie, l'influence qu'ils peuvent avoir sur l'éducation qu'on va donner à nos enfants, l'accompagnement d'ailleurs. Je préfère le terme accompagnement au mot éducation. Et dans tous les domaines de notre vie, notre éducation, justement, a une emprise. Alors, je ne dirais pas que ce sont forcément nos parents, mais c'est quand même eux qui nous ont donné cette éducation, qui nous a formatés d'une certaine manière. Voilà, je dirais ça. C'est le formatage, peut-être, qu'on peut appeler schéma
familial, et peut-être qui remonte à des générations.
Peut-être. On peut s'intéresser à la psychogénéalogie. C'est vrai que c'est intéressant. Mais déjà, remonter simplement à nos parents, à nos grands-parents, je trouve que c'est déjà très important dans la prise de conscience de nos actions un petit peu automatiques, quotidiennes, dont qu'on relie parfois à nos parents, mais parfois pas.
Exactement. Est-ce que vous pourriez donner un exemple, un schéma familial ? Assez courant.
Un schéma. Alors, moi, j'utilise le terme souvent d'automatisme parce que ce sont des éléments sur lesquels on n'a pas vraiment de prise et qui se mettent en route dans notre quotidien d'une manière, d'une manière automatique, un petit peu comme si on rejouait des scènes qu'on a subies nous-mêmes enfants. Alors, par exemple, ça peut être systématiquement dire à son enfant trouver qu'il est trop gros, qu'il mange trop, par exemple. Ça va être c'est le résultat d'une éducation. Ou alors trouver qu'il mange pas assez parce qu'il est pas assez rond, il est pas assez gros, parce que dans notre famille, le fait d'être en bonne santé était relié à un poids, un certain poids. Alors on trouve que notre enfant est trop maigre ou trop gros ou trop ceci ou trop cela. Et en général, quand on est dans ce genre de schéma, justement, on oublie la justesse, en fait. On n'est pas juste. Et ce qui caractérise l'intervention du schéma familial dans notre vie, c'est la réaction disproportionnée. Souvent, on a des réactions disproportionnées ou automatiques qu'on ne réfléchit pas, qu'on ne remet pas en question et qui viennent directement de notre éducation. Donc il y a vraiment les automatismes et puis les habitudes aussi, les conditionnements.
Et oui, par rapport au conditionnement, j'ai lu dans un article du PEPS Magazine dont vous êtes la fondatrice. Donc c'est dans le numéro 17, la chroniqueuse Brigitte Gimbal a écrit « Nous n'appliquons donc généralement pas un schéma unique, mais une mosaïque. Ah. » Donc de schémas familiaux. Pour l'enfant, cela a des avantages et des inconvénients. Au titre des avantages, la diversité augmente la probabilité de trouver un équilibre satisfaisant de temps en temps, ce qui permettra à l'enfant de s'appuyer sur cette expérience pour relativiser les autres. Et de l'autre côté, plus nos schémas sont réactifs, donc plutôt automatiques, moins ils correspondent à nos décisions conscientes et plus il y a de chances qu'ils soient blessants pour l'enfant.
Absolument.
Comment on peut blesser son enfant de manière inconsciente par rapport à nos réactions ? Automatique.
Alors ça, c'est quand même une question complexe, parce que quelquefois on le ressent qu'on blesse notre enfant. On le fait de façon automatique. Bon, par exemple, quand on a reçu des fessées soi-même, on va avoir tendance à le faire de façon automatique. Et quelquefois, les gens disent souvent ça sort tout seul. C'est sorti, oui, tout seul. C'est pas sorti tout seul. Ça sort d'un automatisme, d'un vécu, d'une blessure d'enfant qui est rejouée. Mais ce que je peux remarquer en tant qu'accompagnante de parents et de professionnels, c'est que ce geste, il sort automatiquement, il est souvent, le plus souvent immédiatement regretté. Donc on se rend compte, et même on se rend compte pendant l'acte, on se voit faire, et on aimerait arrêter, mais on n'y arrive pas. Alors, ce qui va nous aider à finalement arrêter un automatisme ou un conditionnement, c'est la prise de conscience. Effectivement, elle peut se faire par ce que disait Alice Miller. Moi, je trouve ça assez juste. Alice Miller a fait beaucoup de travaux justement sur la reproduction de la violence éducative. Elle disait qu'il fallait, en tant qu'adulte, que nous retraversions ces souffrances d'enfants et que nous vivions complètement les émotions associées à ces souffrances. Car souvent, quand on était enfant, on a subi des souffrances parce que nos parents n'étaient pas du tout au courant, ils n'avaient pas les informations qu'on a aujourd'hui, donc ils reproduisaient de manière très automatique leurs propres schémas parentaux, sans du tout les remettre en question, en se disant que c'était vraiment pour notre bien. Je pense que notre génération, elle est dans le conflit intérieur. Nos parents n'ont pas eu ça. Peut-être que c'est pour ça qu'ils vivent, ils vivent plus longtemps, peut-être ils ont une espérance de vie plus longue. C'est-à-dire qu'ils le faisaient sans forcément se poser de questions,
en
se disant que c'était pour notre bien.
C'était la meilleure façon de faire.
Exactement. Donc nous, on n'a pas vraiment eu l'occasion d'exprimer les émotions liées aux souffrances dues à cette reproduction de violence familiale, parce que quand on essayait de pleurer, par exemple, on nous disait... Parfois on nous tapait encore, on nous dit voilà, tu sauras pourquoi tu pleures, ou pleure,
oui,
tu glisseras moins.
J'ai entendu ça il y a pas longtemps.
Hein, voilà.
J'ai des amis qui sont fiancés actuellement, qui désirent se marier, qui désirent avoir des enfants, et je leur parlais de cette chronique que j'ai mise en place ici. Ils me disaient, oh, mais non, l'éducation positive, c'est pas bien. Moi, je suis pour la fessée. Et puis mon père, quand je pleurais, il mettait une rousse, il me disait, ben voilà, maintenant tu sais pourquoi tu pleures.
Ouais.
Et j'ai été tellement choquée, je me suis dit, mais comment ils peuvent penser ça encore?
Ouais. Le problème,
faire pareil avec leurs enfants.
C'est justement, je crois que le problème là-dedans, c'est que le fait d'avoir un enfant, c'est un processus. C'est pas dès la naissance de l'enfant, ou même avant la naissance de l'enfant, on peut avoir des idées brillantes sur l'éducation positive, entre guillemets. Il n'y a pas d'éducation négative, en fait. Il y a juste un accompagnement qu'on essaye de donner à son enfant. Quand on est parent, on essaye de s'en sortir comme on peut. Et quand on se retrouve face à un bébé, c'est à la fois magique et ça nous désarçonne. Ça nous pose des tas de soucis. Ça réveille notre histoire d'enfant. Alors, une fois qu'on a cette information-là, peut-être que peu à peu, on va pouvoir se dire, tiens, qu'est-ce qui m'est arrivé là? Je me suis mise en colère parce qu'il n'a pas voulu finir sa salade, ses haricots verts, etc. Mais comment ça se passait pour moi quand j'étais enfant? Déjà, le fait de se poser la question, simplement, ça va nous faire réfléchir au fait que peut-être que c'est pas l'enfant qui y est pour quelque chose. Peut-être que c'est mon enfance qui m'amène à faire ce genre de choses. Et peut-être que c'est mon enfance qui m'amène à trouver qu'il faut qu'il finisse son assiette, ou au contraire, qu'il mange trop, ou au contraire, qu'il fait pipi pas quand je lui ai demandé. On a beaucoup d'automatismes en tant que parents qu'on trouve parfaitement normal, puisque notre société baigne dans des habitudes éducatives. Mais ce qui est très difficile à concevoir, je trouve, c'est que nous avons, en tant que parents, à passer par ce chemin de prise de conscience. C'est vraiment un chemin, c'est jour après jour, minute après minute. C'est compliqué, la vie, elle est faite d'une succession de détails. Donc, c'est difficile de se dire, je vais faire autrement avec mon enfant. C'est souvent le résultat de rencontres, de réflexions, de lectures et parfois de thérapie.
Exactement. On va faire une petite pause musicale et après on parlera de comment conscientiser, comment prendre conscience de nos schémas automatiques.
Feel better.
De retour pour la suite et fin de cette deuxième chronique mensuelle sur l'éducation positive. On est toujours en compagnie de Catherine Dumonteil-Crémer. On va enchaîner avec cette question qu'on se posait juste avant la pause musicale que vous avez entendue avec Missy Gray. Comment on fait pour conscientiser nos schémas éducatifs, pour s'en défaire ? Est-ce que ça passe par plusieurs phases, par exemple ? Des critiques d'autres parents ou d'inconnus dans la rue, ou bien encore par le fait d'écouter vraiment son enfant, peut-être, ses besoins. D'après vous, comment on fait alors pour écouter vraiment les besoins de son enfant et prendre conscience de ses automatismes ?
Alors, c'est vraiment des questions qui sont très différentes. Prendre conscience est une étape, se débarrasser de ses réactions automatiques en est une autre, répondre aux besoins de ses enfants découle. Va découler de ces étapes qui sont parfois vraiment complexes à mettre en œuvre. Prendre conscience, c'est peut-être, comme je le disais tout à l'heure, quand on a une réaction de colère, à chaque fois qu'on a d'agacement, d'énervement, qui n'est pas, qu'on trouve vraiment inadapté à la situation. Peut-être qu'au départ, la première étape, c'est j'accompagne mon enfant et je ne me pose pas de questions, je ne me rends pas compte que ben, parfois je le blesse, parfois je me fais mal en le blessant, etc. Deuxième étape, je prends conscience, mais quand je prends conscience, du coup, je souffre parce que je me vois faire, je sais que ça va pas, je sais que ça va pas être adapté à son développement, à ses besoins, ce que je fais, mais au moins je le vois et ça, c'est déjà un progrès énorme. Donc prendre conscience, c'est se poser la question. Comment ça se passait pour moi quand j'étais petite ? Tiens, qu'est-ce qu'elle faisait ma mère ? Et peut-être même solliciter les parents sans arriver avec un drapeau parentalité positive, mais plutôt essayer dans la curiosité d'explorer ce que nos parents ont fait avec nous. Tiens, finalement, comment tu faisais, toi, pour nous faire manger ou nous faire dormir ? Comment ça se passait ? Et si la question est posée d'une manière bienveillante et que nous sommes prêts à entendre la réponse, ça va nous donner des indicateurs par rapport à nos réactions. Et ces renseignements-là sont précieux. Mais on peut retrouver ça en thérapie aussi. Hein, donc voilà. Alors là, on prend conscience. On se dit, oui, là, c'est pas mon enfant, c'est mon histoire, c'est ma blessure d'enfant qui ressurgit à ce moment-là. Et une fois qu'on a trouvé le point de contact entre mon histoire passée et ce qui se passe au présent, eh ben on peut essayer d'aller travailler émotionnellement la question. Alors essayer de vivre sa colère dans un cadre de sécurité. Alors je sais que c'est pas très facile, vivre sa colère dans un cadre de sécurité, c'est-à-dire surtout pas avec son enfant, projeter sa colère sur son enfant ou sur son partenaire ou sur ses amis, mais plutôt essayer de la vivre soit en thérapie, soit en hurlant dans un coussin dans sa chambre, quand on sent qu'on devient trop bouillonnant pour réagir d'une manière adaptée avec son enfant. Voilà, on a ce travail-là à faire. On peut aussi pleurer. Moi, je trouve que pleurer, c'est une excellente chose. Et c'est comme ça qu'on déracine le problème. Autre façon de faire, utiliser une méthode, une méthode d'accompagnement de l'enfant, une méthode éducative.
D'accord.
Finalement.
Laquelle?
Enfin, éducative. Enfin, quand je dis éducative, j'aime pas, je devrais pas dire ça, mais enfin, les méthodes qui sont aujourd'hui prônées pour l'accompagnement de l'enfant ont toutes quelque chose de très positif parce qu'on essaye de faire quelque chose pour améliorer la vie de l'enfant, répondre à son besoin, l'écouter dans ses émotions. Sauf qu'à un moment donné, on va se rendre compte que la méthode ne suffit pas. Il va falloir aller chercher dans son histoire ce qui fait que on réagit de façon automatique. La méthode est très intéressante en surface parce qu'elle nous aide à nous connecter à l'amour qu'on a pour notre enfant et à faire les choses au mieux, je dirais. Mais d'un autre côté, voilà, il va falloir à un moment donné. Ça peut suffire si on garde en tête cette idée qui consiste à se dire, voilà, je pense quand même à ce que j'ai vécu enfant. Je pense à mon vécu d'enfant. Je me pose la question. J'essaye de faire un travail dessus, tout en mettant en parallèle quelque chose, des techniques de communication, par exemple, etc. Par exemple, le cycle Vivre et Grandir Ensemble qu'anime Laure Thuet-Agap, je trouve qu'il est très adapté parce qu'il donne à la fois des outils aux parents Et en même temps, il y a quand même une référence à la prise de conscience, aux schémas familiaux. Donc c'est quelque chose qui est assez, c'est assez complet pour les parents.
C'est assez complet, c'est assez long. Voilà. Combien de temps ça prend, en fait ?
Le cycle Vivre et Grandir Ensemble, c'est 3 séances, c'est 8 séances de 3 heures.
D'accord.
Donc 8 séances de 3 heures, une sur l'écoute, une sur le jeu, une sur... parce que finalement la question des besoins de l'enfant, elle est relativement centrale, parce qu'elle va nous aider à poser des limites, elle va nous aider à écouter l'enfant, elle va nous aider à régler les problèmes scolaires. Enfin bon, bref, il y a beaucoup de choses dans ce cycle, et je pense que bon, ça passe en revue tous les problèmes que peuvent rencontrer les parents.
D'accord. Et cette prise de conscience peut durer, peut être fulgurante ou pas ? Est-ce que ça dure plutôt des années, des mois ? Est-ce que vous avez des exemples ?
Eh bien, pour moi, la prise de conscience de ce qu'on a vécu quand on était enfant, elle dure toute une vie et peut-être même plusieurs vies. Par contre, ce que j'ai trouvé intéressant pour moi en tant que parent, c'est que j'ai vu ça un petit peu comme une sorte de pyramide, les blessures d'enfant. Donc, le haut. Égrignoter un petit peu, très facilement, très très vite on arrive à remettre en cause, à remettre en question l'autorité, la crainte qu'on peut avoir de l'autorité, le fait de taper sur son enfant, etc. Ça disparaît, ça peut vraiment disparaître très vite. Après, il y a les couches profondes qui sont notre naissance, les premières années de vie, enfin il y a des choses auxquelles on a accès plus difficilement, mais bien sincèrement, ça augmente notre vitalité de façon énorme.
Parce que c'est un peu inconscient si ça part de la complètement. Naissance. Et même peut-être
complètement.
In utero.
Absolument, oui, aussi. Il y a aussi in utero, et puis après, comme vous le disiez, la psychogénéalogie. Mais moi, je trouve que déjà s'occuper de son histoire d'enfant, c'est déjà un travail énorme, d'aller rechercher un petit peu ce qu'ont fait nos parents avec nous. C'est vrai qu'on peut remonter plus loin et voir les reproductions de situations, d'événements dramatiques, etc. Ça nous aide aussi à élargir notre conscience. Mais vraiment, la conscience peut être déployée quand on décide, qu'on a l'intention vraiment d'aller faire en sorte qu'elle se développe. Et ça nous, je dirais qu'après, les choses se font toutes seules, finalement. Oui. On n'a plus besoin de méthode.
Il suffit juste de prendre la décision, peut-être.
Exactement. C'est important de décider, de s'occuper de soi et de retrouver sa propre vitalité. Et après, de donner un exemple d'adulte inspirant.
Ben, je pense que ce sera le mot de la fin.
Merci.
Merci à vous d'être venu pour parler des schémas familiaux et on vous souhaite bonne continuation.
Merci beaucoup.
Et puis, moi, je vous dis...
Et merci de m'avoir invitée.
Tout le plaisir est pour nous. Je vous dis à très vite. On se quitte sur un petit Radiohead, le générique de l'émission.
this love has been in vain. Ooh. In you I'm lost, in you I'm lost, in you I'm.